Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malt, la bière du 12e joueur.
Bon bah, we're back. On est de retour.
Hey, Sofiane,
c'est plutôt
passé où?
Je sais pas. C'est plutôt moi qui est de retour. Et ben voilà, c'est Pépé, Couscous Pépé est de retour. C'est plutôt moi qui est de retour parce que il y a 21 jours, j'ai la chance d'être un papa. Donc le 9 février, ma chère conjointe et femme a eu le privilège et la difficulté un peu d'accoucher notre fille, une fille qu'on a. Est-ce que je donne son prénom publiquement ou je laisse ça sur Facebook et les algorithmes gérer ça? Je sais pas encore. En tout cas, je peux vous dire, voilà, je suis papa, content, je vais bien, surtout moi. Mais non, le plus important, ma femme va bien, la petite va bien. Et puis voilà, une annonce un peu en bric-à-brac là pour commencer ce podcast. Donc je suis vivant. J'étais off sur Twitter pendant 2 semaines. Ça fait du bien.
C'était faux la rumeur comme quoi CCPP allait mourir parce que le club ne perd plus.
Il se peut qu'on meure aussi à cause de San Hilton. Battre San Jose à San Jose, c'est bon, la saison est finie. Il faut arrêter.
Ouais, et puis il y a plein d'autres gens là qui peuvent prendre le relève ces temps-ci en plus.
Ah oui, tout le monde fait des podcasts. Ce qui est bien, je dis pas ça méchamment. Il y a un goût de méchanceté, un peu jalousie, mais oui, je suis content qu'il y ait d'autres podcasts qui arrivent. Les nouveaux, là, IMFC Radio qui ont embarqué. Et puis d'autres peut-être qui ont embarqué dans le futur. Donc, welcome to the jungle, comme on dit. Et puis, bonne chance pour être. Bonne chance dans ce monde des podcasts qui est assez ingrat, assez gratifiant, assez difficile, assez facile. Parce que c'est comme ça. Bon, ça va bien, Hilton, ça va?
Ben oui, moi, j'ai rien de neuf à annoncer, là, donc j'invite tout le monde à envoyer un lot de compliments, surtout à madame.
Surtout, moi, j'ai pas fait grand-chose.
Et tous les papas qui nous écoutent comprennent que, ouais, nous, les papas, dans le fond,
on fait rien.
On est secondaire.
On fait rien.
Ouais, ben, c'est pas vrai. Il faut faire des affaires.
Voilà. Relativement.
Il faut écouter, il faut être au service et il faut se taire.
Regarde, c'est comme quand on dit qu'un Américain, il est nul. Oui, mais par rapport à Mokozu, il est bon. Donc, encore une fois, c'est question de relativité. C'est comme ça, il faut tout remettre ça au foot, Nilton. C'est plus facile à comprendre. Moi, je gère mieux ça, le stress. Le podcasting, c'est ma thérapie qui coûte pas cher. Quoi, ça me coûte l'Internet.
C'est relatif.
Ouais, ça me coûte pas cher. Ouais.
C'est drôle, tu parles d'Américois parce que juste avant le podcast, j'étais en train de faire des recherches, mais finalement, j'ai arrêté parce que ça allait être méchant pour les gens.
Et t'as réalisé que t'es pas payé pour ça?
J'ai commencé à faire des recherches, des posts Twitter après le premier match d'Américois.
Ah, qu'il faut le re-signer.
Il y a beaucoup de mots identiques avec les mots qu'on utilise aujourd'hui pour Maxi Urruti. Mais bon.
Oh, intéressant.
Mais sans blague.
Je te vois y venir, là. Je vois les mots course, activité, ébauche d'énergie.
Non, sans blague.
Pressing.
C'est pas comparable, on s'entend, là. Ouais. Mais des fois, il faut juste faire attention un peu à ce qu'on peut dire sous le coup de l'émotion, sous le coup de l'influence de la licorne. Et il faut regarder. Tu sais, souvent, tu le dis, quand on parle des matchs, il faut regarder aussi contre qui on joue. Hein. On ne joue pas contre des cons. Mais c'est bon aussi quand on gagne. Il faut voir contre quoi on joue pour comprendre certains trucs et voir si ce qui s'est produit peut se reproduire de façon répétitive.
Exactement. Il faut être relatif dans tout, prendre un peu de perspective, puis on va repasser à travers ce match-là. Et puis, on y va. Je fais comme d'habitude mon décompte 1, 2, 3, que la moitié des gens qui les écoutent adorent, l'autre moitié détestent, mais je continue de le faire quand même, jusqu'à qu'on me dise arrête. Il faut faire un vote. Donc, on y va, on commence. 1, 2, 3.
Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps.
Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact.
Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La petite série du soccer.
Bon, bienvenue tout le monde à l'épisode 3 du Couscous Piri Piri, communément appelé CCPP, de la saison 2019. Sofiane avec vous, je suis le Couscous, Nilton George avec moi, le Piri Piri, salut Nilton.
Salut Sofiane, bon retour officiel, un beau retour officiel, t'arrives juste à temps pour la saison de rêve 2019 d'un Impact de Montréal.
Ça fait deux semaines, que j'essaie de parler de la pré-saison, mais j'ai pas eu la chance. Mais je pense que je vais m'insérer un peu pour cet épisode-là. N'oubliez pas, nous sommes évidemment sponsorisés en partie par la Forge du Malte, la bière du deuxième joueur, la microbrasserie, la Forge du Malte basée à Trois-Rivières. Donc on remercie tout le monde à la Forge du Malte de nous supporter. Un grand bonjour à Guy Lafrenière, avec qui on travaille au Canafc et au Couscous Piri Piri. Donc merci encore. Et aussi, on est aussi sponsorisé en partie par Spreaker, qui est la plateforme de distribution et de hosting de podcasts que nous utilisons. Et ils nous sponsorisent partiellement pour cette année, pour les 12 prochains mois. Donc on leur remercie beaucoup, Spreaker, de nous supporter et surtout de nous hoster et nous aider à diffuser l'évangile. Comme vous avez remarqué récemment, il y a un grand shift comment on fait les émissions. Avant, tout était sur le même feed qu'NFC+. Maintenant, chaque émission a son propre feed RSS. Donc la plupart sont tous sur iTunes et autres applications. Elles sont toutes sur Spreaker. Et pouvez vous abonner à travers ça. Donc voilà, vous êtes sur une application comme Pocket Cast. Vous cherchez le nom de l'émission Couscous Piri Piri, connaissez le podcast, par exemple, ou sur la ligne ou un autre. S'il devrait être là, s'il n'est pas là, dites-le nous. Mais en tout cas, nous, on travaille dessus à les ajouter au fur et à mesure.
Est-ce qu'on en profite pour démêler un peu le concept et l'utilité du Patreon et, oui. Oui. Et tout ce qu'on et tout ce que ça implique justement.
On n'a pas le choix, le source de financement. Donc, il a un questionnement qui est venu, je pense, de Jesse et ensuite de Kevin Duskap qui disait que nous, moi, je n'entends pas de supporter tout le Canafc, je veux seulement supporter le CCPP. On a expliqué
méchant
Jesse, c'est ça. Mais le CCPP, on fait partie du Canafc, on est notre genèse arrive du Canafc. Moi, j'ai commencé comme un des originaux, des fondateurs si vous voulez. Nathan est arrivé un peu plus tard. Donc on est un peu la genèse. Adam et Ève là, on en fait partie de cette genèse là, le Big Bang.
J'aime mieux ça.
Donc c'est ça. Et puis le Patreon a été mis en place comme Sid avait expliqué sur Twitter. Le seul Patreon vraiment couvre notre coût d'opération pour la plateforme podcast du Canafc+, les frais des sites web et tous autres frais connexes qui nous aident à produire le contenu écrit.
Mais c'est ça qui est la grosse nuance. Le Patreon ne sert pas du tout à payer les animateurs, les podcasteurs, les collaborateurs. Il aurait pu,
mais par rapport au budget, les chiffres qu'on a, on paye les frais qu'on a et puis ce qui reste, on paye notre poche ou c'est l'extra, ça paye une caisse de bière une fois de temps en temps quand on se voit. Donc c'est ça, puis je pense qu'il y a un certain engouement par rapport à MFC Radio qui a une bonne campagne de Patreon qui continue d'être à avoir du succès. Donc les gens se disent pourquoi on fait pas comme eux alors que bon, le Canafc c'est plus une communauté, une coopérative de plusieurs podcasteurs au niveau podcast, mais aussi on a un site web, on a des réseaux sociaux très puissants, du moins qui interagit beaucoup avec les gens. Donc c'est ça. Et en réponse à ça, je me suis basé sur la suggestion de Kevin Duska, j'ai ouvert une page de socio-financement avec buymeacoffee.com pour le CCPP où vous pouvez donner des tips à nous acheter des cafés ou des couscous ou des péripéri, on appelle ça ce qu'on veut, et vous pouvez nous aider financièrement. Le CCPP, tiens, je vous donne un café, 3 cafés, 15 cafés, puis ça nous donne un certain montant d'argent qu'on garde pour nous, pour vraiment
pour devenir millionnaire.
Exactement, pour se payer des vacances au Sandals Bahamas, Atlantis, etc. Donc exactement. Donc en fait, vous nous supportez, en fait il y a plusieurs niveaux de support. Déjà, vous nous écoutez, vous partagez le contenu, vous nous lisez tous les intervenants du Canafc, le site web, les réseaux sociaux, ça c'est number one. Numéro 2, supporter le Canafc via Patreon pour supporter la plateforme, supporter l'entité si vous voulez. Tu vois, imaginez que vous supportez RDS entre guillemets, mais c'est vraiment pas, en fait c'est un mauvais exemple, mais vous supportez le mothership, voilà le bateau, le bateau principal, et c'est nous, on est tous le même bateau, puis on traverse l'océan du média foot montréalais, et c'est le Canafc, c'est l'engin qui dans lequel on fait partie, on est dans les rouages de cet engin là on le compose. Vous voulez supporter le CCPP, vous nous écoutez comme vous faites maintenant, Vous pouvez nous contribuer sur notre petite page Buy Me a Coffee. Je vais mettre les liens dans la description de l'émission. Et vous pouvez vous partager notre contenu. On va travailler sur du gear, acheter notre gear quand on va y arriver. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui vont nous aider. Si vous avez des suggestions, à part qu'on ouvre notre propre Patreon, qui pourrait arriver? Ça peut arriver qu'on ouvre notre propre Patreon. Il se peut que ce soit logique à un moment donné. Mais pour le moment, c'est important de supporter tout ce qu'on fait. Et nous, ce qu'on fait, ça fait partie du CANAFC. We are CANAFC. Et supportez-nous aussi directement avec les différents moyens qu'on vous donne. Puis on évolue. Il n'y a rien qui coule dans le béton. On change, on s'adapte. Avant, ça s'appelait Sans Corse aux Frontières. Avant, CCPP, c'était un pur après-match. L'Impact qui reste toujours un pur après-match. Mais je pense qu'on a beaucoup évolué depuis. On peut faire d'autres choses si on veut.
Oui, parce qu'après 35 fois le même match,
exactement.
Ça devient redondant. Et notre plus gros défaut, ça va peut-être sembler incroyable et incrédule pour certains.
On est trop bon. Non. Je sais, je suis d'accord.
Non, on se croit pas si bon que ça.
Non, c'est vrai.
On se croit pas si intéressant que ça.
C'est vrai.
Et quand les gens demandent de refaire du gear ou vous devriez vous aussi avoir du contenu exclusif, on dit « Really? » Vous pensez qu'on est assez intéressant pour ça?
C'est vrai.
Donc, à chaque fois, déjà, Kevin, avec sa suggestion, on n'était vraiment pas certain. On a lancé cette page-là comme ça, comme une bouée à la mer, un essai. Puis ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas. Ça change absolument rien à notre production de contenu. On fait pas ça pour... en tout cas, toi et moi, on fait pas ça pour en vivre, on fait ça parce qu'on aime ça, parce que de toute façon, on le fait en privé, fait qu'aussi bien mettre un micro. C'est sûr que quand il y a le micro, il y a certains director Scott qui se fait. Donc, j'avais hâte que tu reviennes. Là.
Moi aussi, j'avais hâte. Mais c'est ça. Et comme tu dis, Hilton, supportez-nous comme vous pouvez, mais vous savez comment le supporter. Consommation de contenu, support financier de la plateforme CANAFC, support financier du CCPP, à travers les différentes initiatives qu'on va faire dans le futur, proche et lointain. Et vraiment, tu sais, il faut partager notre contenu. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Il doit y avoir, je sais pas moi, 20% de... Si par exemple, on a 1000, 1500 écoutes sur le CCPP de façon régulière, il y a quoi? Il y a 60 Patreons, 50? Tu sais, il n'y a pas beaucoup hein, c'est par rapport aux chiffres-là. Donc, vous ne voulez pas donner de l'argent, c'est correct. Mais si vous voulez partager le contenu, c'est retweet, Facebook, partager le bouche à oreille, dites à vos amis, écoutez ces podcasts-là. C'est important pour nous. Sinon, à un moment, je pense que même si j'ai une écoute, je vais continuer quand même. Je pense que je m'amuse. Mais voilà, quoi. J'avais dit sur un tweet, je pense, avec Arcadio et toi, je pense que le marché montréalais, comme avait dit Kevin Gilmore, c'est pas un petit marché. Mais je pense que toutes les parties prenantes doivent step up un peu, que ce soit ceux qui font du contenu, soit ceux qui consomment le contenu, il faut qu'on vous step up aussi un peu, dans le sens que ce soit financier ou pas. Juste dire, ok, ben, il faut parler de nous si vous aimez, puis il faut parler de nous si vous ne nous aimez pas, dans le sens qu'il faut qu'on sache. Et puis nous, en communiquant comme ça avec vous, via le podcast et via les réseaux sociaux, ben, on vous pose des questions. On se dit, Nilton, est-ce qu'on doit faire du contenu exclusif? Peut-être, on va essayer. On va essayer, mais comment? Via le Patreon, via Buy Me a Coffee. On est encore en tergiversation pour réfléchir. Mais c'est pourquoi on a besoin de vous, pour vous nous dites un peu si vous avez des suggestions. Parce qu'on n'oublie pas, CCPP, c'est pour le peuple, par le peuple, avec le peuple. C'est pas très communiste là, désolé, mais c'est plus... c'est comme ça que la genèse du show est arrivée. Oui, des people. Donc c'est ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu... Bon, désolé pour mon blabla, mais je viens de... Ouais, 12 minutes, je pense qu'on a perdu tout le monde maintenant.
Ils vont nous demander un café parce qu'ils se sont endormis.
Exactement. Donc c'est ça, supportez-nous comme vous pouvez. Puis surtout, si vous avez des idées, des suggestions, des plaintes, des commentaires, parlez-nous en message privé si c'est possible. Sinon, ben, on est tout ouvert à vous écouter parce que c'est ça qu'on fait. On vous écoute et je pense qu'on le fait assez bien. Donc je pense maintenant on peut passer à le match, les victoires 2-1 de l'Impact de Montréal face au San Jose Earthquakes. Juste un petit récapitulatif du match. Magnus Eriksson à la 11e minute marque un joli but contre Evan Bush. Ignacio Piatti à la 29e, un but de ninja sur un corner joué court, sur une passe décisive de Xavier Tader. Et à la 44e, Adam Oates. J'ai dit Patrick Marleau, puis ensuite il a marqué le but. Donc je pense que Monsieur Max Van Hout, j'avais raison.
Ouais. On s'est ostiné sur la... À cause de ça, on a fait des références à hockey pendant tout le match.
C'est super. Notre influence, notre engagement Twitter a triplé. Et ensuite, à la 44e minute, juste avant la mi-temps, Safi Tader marque un super but sur une passe encore plus belle de Zakaria Diallo, de Comeback Kid. Donc à la base, c'est ça le match. Si vous voulez, bon, je vais passer à travers l'élément partant pour avoir une idée. Du côté de San Jose, que personne ne connaissait quasiment, Vega, Lima, Cachia, Cummins, Lopez, Cachavilli, Godoy, Johnson, Espinosa, Erickson, derrière, Wondolowski. Du côté de l'Impact, 4-3-3, Lovitz, Diallo, Cabrera, Sagna, devant Evan Bush, Tyler, Piet, Azira, Piatti, Urruti, Okuyonko, Neuvillo, toujours blessé, s'était blessé en pré-saison. Quelque chose que j'avais pas réalisé, que sa blessure était aussi grave que ça.
Peut-être que de Vincent Destouches non plus, maintenant, il va falloir qu'il se trouve des sous-vêtements chics pour son pari.
Oh là 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 là.
Parce que 10 buts.
10 buts était blessé, ça va difficile. C'est difficile. Est-ce que je peux parler un peu de pré-saison pour deux minutes, juste
go.
Et c'est quelque chose que je pense que tu peux être mon témoin, parce qu'on s'en parlait en privé. C'est qu'il y a une sorte de vague de positivisme que je n'ai pas trop compris juste avant ce match-là. Et puis je pense que cette vague est récompensée par ce résultat-là, quoique le déroulement était très différent du résultat. Et je n'ai pas tout compris pourquoi. Dans le sens, oui, il avait l'effet Kevin Gilmore, Piatti a porté un man bun, l'Impact jouait en pré-saison, ça gagnait, même s'il ne jouait pas trop bien. Il y avait un certain sens du nouveau, comme une nouvelle voiture qui a été retapée. Mais je n'ai pas trop compris l'effervescence du positivisme. C'est plus ça. Moi, je n'ai pas trop compris pourquoi on était super positif alors que je voyais des choses...
C'est le discours, c'est... Ouais. Le contenu reste à peu près le même, mais ça dépend toujours de qui donne le discours. Il y a eu des décisions pendant l'entre-saison qui ont fait plaisir aux partisans.
Ouais.
Les personnes qui parlent maintenant utilisent le bon langage, utilisent le positif dans leur langage. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais ils vont dire ce que les gens veulent entendre. Et après ça, il y a les résultats qui suivent. Donc, tout ça, c'est l'effet boule de neige. On oublie un peu la façon, mais c'est pas grave parce que c'est confirmé. T'sais, tout d'un coup, parce que le président est là, il y a un nouveau président, tout d'un coup, tout ce que le club fait...
Est plus joli, plus propre.
Est plus joli, mais ça reste à peu près à la même chose.
Oui.
J'avais demandé comme ça, au hasard, sur Twitter, « Coudon, est-ce que c'est juste moi où j'ai l'impression que les joueurs sont plus accessibles en ce début de saison? » Patrick Vallée m'a répondu non, c'est à peu près la même chose. Donc, moi qui est reconnu pour être négatif,
tout à fait.
J'avais l'impression que je voyais plus les joueurs.
Regarde, c'est un endroit où les joueurs étaient beaucoup plus accessibles, c'est après le round d'Olivier Brett. Là, il a eu une tonne de joueurs au FC 9-9. Ça, c'est, il y avait un avant round et après round. Et on ne va pas le nier, il a fait une petite gueulade, il avait raison. C'est pas normal qu'une radio mainstream qui parle de foot n'a pas accès à des joueurs.
Mais Sofiane, le vrai test, c'est pas maintenant. Le vrai test, c'est quand il va avoir un petit drama, une mauvaise séquence. Là, c'est facile de demander à Saphir d'aller au 98.5, de demander à Diallo au 91.9, de faire la tournée. C'est facile. Il y a juste du positif.
Tout à fait.
Mais la journée, il va se passer quelque chose. Est-ce qu'ils vont être aussi accessibles si Neuvillo joue pas un match d'ici un mois?
Non, c'est vrai. C'est beaucoup plus difficile quand t'as pas Patrice Bernier qui est le tampon à tout prendre. Puis lui, il va parler dans toutes les situations, à toutes les sauces, parce qu'il sait comment communiquer. Là, qui va être le prochain Bernier? C'est pas de Piette, mais Bernier était tellement bon de la communication, même quand ça perdait 8-0, on a l'impression que
tout allait bien. Oui, mais là, c'est beaucoup plus éparpillé. Il y a différentes responsabilités. Tu sais, oui, la figure locale, c'est Piette, mais... dans les médias sociaux, on retrouve Bakary Sagna qui est très présent, Diallo qui semble être pas mal présent aussi sur Twitter.
Et c'est vrai qu'un bon point, c'est que le fait que les joueurs communiquent directement dans l'ère numérique avec leurs fans en dehors des médias, donc le message est positif vient de là aussi. Sagna, c'est du Brobski en plus raffiné là, dans son Instagram, là, tout en motivé, tout le temps.
C'est une bonne comparaison, oui.
C'est très Brobski-esque, là. Puis j'aimais bien Brobski aussi sur Twitter là, et Instagram, sauf quand j'ai gagné du poids, puis il m'emmerdait, là. Fais l'exercice, c'est bon, man. Je mange des Ben & Jerry's pendant que tu me parles de ton... Ton Jeb by Night et comment c'est bien d'être fit, là. Ok, c'est bon, Jeb. Mais, donc c'est ça. Donc, j'étais pour le positivisme, mais je trouvais qu'il y avait un engouement qu'on expliquait par rapport à ce qu'on vient de dire, ça c'est clair. Mais j'avais peur que ça allait trop dans le fanatisme et dans le
culte. Ouais, mais ça va l'être parce que là, oui, on le voit, là, il y a des commentaires qui sont démesurés, là. Tu sais.
Oui.
Mais bon, dans ce moment-là, c'est difficile. Je vais donner mon exemple. Quand j'ai dit cette semaine, lors de la table ronde avec Sid et Olivier Brett, on m'a pratiquement forcé de dire playoff parce que comment décevoir tout le monde autour de toi où tout le monde a l'impression qu'il n'y a presque pas qu'on est à un ou deux joueurs de la MLS Cup gang. Ouais. Avez-vous vu les autres matchs autour? Ça peut être catastrophique comme ça peut être beau. T'avais eu un bon point avec le TFC, tu sais. Après, en plein milieu du match, t'as tweeté Toronto n'est pas censé être nul. Eh bien non, pas exactement. Tant que ça. Exactement. Ça va vite. Donc, oui, c'est. Il y a des micro-influenceurs un peu partout qui amènent la vague dans une certaine direction. Et c'est difficile de dire autrement parce que si tu dis autrement, tu vas être facilement pointé du doigt dès que tu as tort. Tandis que si tu dis playoff, comme tout le monde dit playoff, mais tu peux pas. Tu vas avoir la paix, ça va être tranquille. Pour quelqu'un qui fait face à la musique, c'est facile pour un incognito, un no-name, un partisan de critiquer on the side. Quand ça va pas bien, ben, ils s'en foutent, il n'y aura pas de répercussions. Si tu es le seul, hein, tu te souviens quand on avait lancé en 2017 le No Playoff en mai?
Ah oui, ça c'était
tout seul. Pendant que toute la meute autour, pro Impact de Montréal, disait qu'on capotait pour... On réagissait trop vite, que oui. C'était pas ces éléments qu'il fallait laisser du temps, mais le temps, le classement n'a pas cette notion de temps-là. T'sais. Donc, c'est difficile de dire nos playoffs. As-tu vu, rapidement, quand il y a une petite séquence positive, on s'est fait pointer du doigt vite. Donc,
non, c'est vrai. Mais...
Dans la place publique, c'est toujours plus facile de suivre la vague.
C'est vrai, mais je trouve que c'est un très bon point, Nilton, puis super intéressant ce que tu viens de dire, puis je voudrais ajouter sur ça, c'est que moi, j'ai pas vu les matchs pré-saison des autres clubs, donc je peux pas tous les voir, donc comment je peux dire que l'Impact va faire les séries tout de suite, et surtout que le recrutement, il a plus de pertes de joueurs stars dans la conférence de l'Est que d'ajouts positif. Oui, il a Nani à Orlando, il y a d'autres joueurs. Oui, il y a un recrutement dans la conférence de l'Est, mais t'as l'impression que l'Impact n'est pas si en retard qu'il était pendant il y a un an ou deux ans. Je pense qu'on a ce feeling-là. Mais ce feeling, il faut qu'on le voit de façon tangible à travers revoir les transactions, voir comment ça joue après quelques matchs, pour essayer de décrire ou d'évaluer ou de prédire une certaine tendance. Donc, moi, j'ai besoin d'un peu de temps. Je n'ai pas 15 matchs.
Oui, puis les voir dans d'autres situations. Là, tout ce qu'on a vu, là, c'est des situations où Montréal ne courait pas après le score en fin de match, où il n'y avait pas besoin de changer de style de jeu.
Mais ça, c'est correct. À la limite, ça, c'est des scénarios. Disons que ça peut arriver, tu peux faire face à 15 scénarios en 15 semaines. Disons, à la limite. Parce que tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. Mais juste ce qui est tangible, les in et les out, les rosters et les galaxies qui ont 4 DP ou pas, ou toutes ces conneries-là. Puis on se dit, oui, j'aimerais un peu de temps pour voir, parce que San Jose, c'est un nouveau coach, ils ont plein de joueurs, ils ont des nouveaux joueurs que je connais pas. Tu sais, ça vaut quoi exactement, tu sais? Puis surtout, tu joues contre les Galaxy et tu les bats 3-2 aujourd'hui, tu rejoues contre en juillet, c'est un autre club. C'est et surtout que cette année-là, c'est une nouvelle ère de la MLS dans le sens le format des playoffs a changé drastiquement. Maintenant, c'est 7 équipes qui font les playoffs dans chaque conférence et c'est que des matchs couperés à chaque fois. Il n'y a plus de matchs aller-retour, si j'ai bien compris. Donc,
exact.
Donc ça change déjà la donne. Comment tu gagnes la Coupe MLS? La saison se déroule de la même façon. Tu as une place de plus, mais tu as des clubs en plus. Mais les playoffs, comment tu vas jouer dans les playoffs, c'est un autre monstre. Donc déjà,
oui, et puis il faut voir aussi il y a un phénomène là. La première journée, on en juste avant les deux matchs de dimanche. Il y a eu beaucoup de surprises à l'extérieur, là, des matchs nuls.
C'est qui a gagné? Il y a Seattle qui a gagné à la maison, je pense, pour le moment.
Et Galaxy.
Et Galaxy, oui. Et Zlatan.
Mais est-ce que les équipes?
Je l'ai mis comme capitaine. Bon.
Mais est-ce que les équipes avec cette notion-là des matchs couperés en playoffs vont aborder les matchs à l'extérieur de façon différente, on le sait pas. Est-ce que c'est juste un phénomène avec un faible échantillon? C'est juste un phénomène de la première journée? T'sais.
Exactement.
Faut voir tout ça. Là,
on est au mois de mars, puis le mois d'octobre, c'est tellement loin. Donc, et justement, c'est le déroulement de la saison qui fait qu'on a des histoires et des débats et des émissions et le meilleur podcast sur le foot au Québec. Donc, c'est normal qu'il arrive ça. C'est normal que ça arrive. Donc voilà. Comme dirait un grand philosophe algérien, l'altitude de la chaleur, c'est des conneries. Nilton, on passe aux questions.
On va commencer tout de suite avec la vedette du match Tider. Marc Beltaide nous demande pourquoi il n'y a pas eu de VAR sur le but de Saphir.
Très bon point.
En principe, c'est automatisé. Hein?
C'est l'arbitre de vidéo.
C'est ma compréhension.
Voit la séquence. Quoi qu'il arrive, la séquence est révisée. Toutes les séquences tight, qui sont très très serrées, sont révisées par l'arbitre. Si l'arbitre VAR n'a pas décidé de parler à l'arbitre principal pour vérifier, c'est qu'il ne voulait rien, rien faire.
Ce qu'il faut, à chaque fois, là, avec la vidéo et qu'on critique la vidéo, il faut toujours penser à la définition de l'utilisation de la VAR. C'est-à-dire que l'assistance vidéo doit inverser à tout prix et sans aucun doute la décision de l'arbitre sur le terrain. Si c'est du 50-50, si c'est pas clair, la décision du terrain prime. Donc, oui, à la reprise, on regarde puis on se dit, hey boy, c'est peut-être hors-jeu.
Tout à fait.
Mais c'est pas clairement un hors-jeu. Donc, le but est validé. Ça avait été l'inverse. Si ça fait marqué ce but-là et on l'aurait refusé par
pour un demi-pouce.
Pour appel d'hors-jeu, oui, exact.
Ouais.
La VAR n'aurait pas validé ce but-là, selon moi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, donc c'est peut-être une erreur de la VAR ou c'est peut-être un choix humain qui explique la non-utilisation de la VAR avec l'arbitre principal via l'arbitrage vidéo. Donc c'est un choix. Moi, je dis, je suis content, l'Impact a gagné, tant mieux.
Oui, mais peu importe, il faut garder ça en tête. Quand on dit que tout va bien, il y a eu des décisions comme ça qui ont été favorables.
Milton, l'an dernier, l'arbitrage était contre l'Impact. Rémi Garde l'a dit. C'était mauvais. C'était
Azira qui aurait pu prendre un rouge, c'est limite.
C'est vrai.
C'est vrai. J'avais oublié le complot.
N'oublie pas. Rémi Garde n'était pas content l'an dernier. Mais Rémi Garde, maintenant, il a appris. Il connaît la réalité de la MLS.
La transition est terminée?
C'est plus transitif. C'est
la confirmation.
C'est confirmation.
L'année de la confirmation.
Exactement. Mon Dieu. Ça commence bien.
Le gros Benji me demande à moi comment je trouve Urruti. Moi, ça, je pense que Urruti, j'en ai parlé pendant tous les. Hein,
ça va durer 20 semaines, je pense.
Ouais, c'est l'année d'Urruti pour Nilton George. je vais essayer d'être clair avec mon évaluation de Maxi Urruti. J'ai tout le temps dit que ce n'était pas un buteur. Je crois encore que ce n'est pas un buteur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon joueur pour l'Impact de Montréal. Je m'explique. Urruti vient compenser un peu le manque technique du milieu de terrain. Il vient beaucoup travailler avec le trio du milieu de terrain.
Tout à fait.
Mais en faisant ça, il s'élimine de plusieurs phases offensives. Il peut arriver en retard. Une fois qu'on est installé, il est à la pointe. Mais c'est tout le contraire, par exemple, de Marco Di Vaio. Di Vaio, il servait absolument à rien d'autre que de finir. C'est l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. S'il marque, comme ma prédiction le veut, moins de 10 buts, c'est pas grave. S'il est capable de faire d'autres choses, il peut finir la saison avec 15 passes décisives. Et c'est correct. C'est excellent. Maxi Urruti, je l'ai vu courir efficacement. Il a travaillé très bien dans ce style-là parce que on a fini la deuxième demi, ça devait être du 70% de possession sur San Jose.
L'Impact ne voulait pas et je pense qu'on ne pouvait pas jouer au ballon. J'ai pas l'impression. C'était un choix, mais j'ai pas l'impression. Oui, ce qui est normal.
C'est pas grave, là. Vouloir à tout prix un style de jeu qui correspond pas à tes joueurs, c'est des défaites assurées. Rémi Garde connaît l'effectif. Il sait en quoi cet effectif-là est capable de bien faire. Il a compris à quoi servait Nacho Piatti sur le côté gauche. Et c'est parfait. Donc, pour moi, Urruti, si on ne veut pas de buteur, si ce n'est pas le besoin de cette équipe-là d'avoir un avant-centre qui marque des buts à tout prix, mais il est parfait dans ce rôle-là. De toute façon, on n'a pas le choix.
C'est vrai, mais ce que je pense, c'est que athlétiquement, quand je l'avais tweeté, c'est tellement supérieur que je pense que je dis pas que c'est un tout droit qui va juste marquer des pointus faciles. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'occasions de marquer qu'on pense. Mais je pense que pendant les 8 prochains matchs sur 9, c'est difficile sur la route, sauf si l'Impact va aller dessus au niveau de la possession, au niveau tactique, puis domine l'adversaire. je pense qu'il aura du, il aura du mal parce qu'il va sacrifier pour l'équipe, parce que l'équipe va sacrifier pour elle-même, tu vois, ils ont pas le choix, ils vont essayer de marquer un but, ils vont bétonner, puis Inch'Allah, tout marche bien.
Mais mon discours va dans le sens de ce que tu avais dit au début du podcast, là. Il y a tellement un élan de positif exagéré sur ce club-là qu'on définit nos joueurs d'une façon inappropriée.
Oui, oui.
Et quand on dit on a finalement un numéro 9, non, c'est pas un numéro 9, ça.
On a finalement un numéro 9 qui ne s'appelle pas Mancuso Americo. C'est ça le contraste, Nilton. L'impact, c'est soit Justin Brown ou Divayo. C'est soit McInerney ou Drogba. C'est soit Mancuso.
Mais il faut définir les choses telles qu'elles sont.
Oui, c'est ça.
On ne peut pas dire que Saphir Taider, c'est un 10.
Ah non, c'est ça.
Mais c'est ce qui est arrivé quand, en début de 2018. Les gens étaient déçus parce qu'il y avait le tag DP.
Exactement.
Donc, quand on pense DP,
Même maintenant, je regardais le match, j'écoutais Vincent Détouche, il disait, à un moment, Taider a essayé de dribbler 3 joueurs, il a fait un mauvais drip, il dit, je m'attends plus de Taider. Je dis, mec, Taider, ce qu'il fait là, c'est that's it, là.
Plus que ça. Il sera jamais capable de plus que ça. C'est pas, oui, il a marqué quoi? Il a marqué 7-8 buts la saison passée?
Oui.
C'est un maximum une saison pour lui. C'est pas un finisseur. On l'a vu, là, la frappe qui rate.
Ah oui, le but du 3-1, un but vide.
Ouais. Ben oui. C'est pas une critique, là.
C'est pas la première fois qu'il le fait. C'est comme un trademark, quasiment. C'est une marque. Une marque de commerce pour lui.
Un finisseur, que ça soit un avanceur d'un milieu de terrain, un ailier, on s'en fout. Un finisseur ne fait pas ce genre de frappe-là.
C'est vrai. Mais
c'est pas négatif.
C'est ça. Je dis pas ça pour défendre Taider Nilton. C'est pour dire, c'est que, moi, je trouve, il fait tellement de choses sur le terrain que s'il manque de lucidité devant le but, ça m'étonne pas. Maintenant, sur ce coup-là, je dis, come on, bro. Come on. On sait que tu peux mettre ce but-là. C'est pas grave, il a marqué un but de la victoire juste avant qui était excellent. Mais ce que je dis, c'est que moi, je trouve que j'étais assez vert sur Taider pour 2 secondes. Et c'est pour faire mon point par rapport aux attentes. Si tu veux que Taider monte haut, arrête de lui demander de jouer bas. Ne lui demande pas de faire la transition vers l'avant, même si Piet le fait bien avec la passe et Azira monte un peu. Il ne faut pas trop demander et tout. Dans le sens, si tu le demandes, tu demandes tout, tu auras des lacunes et des faiblesses à des moments donnés à cause de la fatigue, parce que le gars il fait trop, il peut pas tout faire, et c'est correct. C'est comme si je demandais, je sais pas moi, à Piatti de jouer dans l'axe. C'est pas son truc. Et il va bien le faire, mais pas aussi bien que s'il était à gauche. Donc je trouve que c'est une question de donnant. Et par rapport au Roti, juste athlétiquement, je pense qu'il va compenser plein de choses, puis je pense qu'il va dépasser les 10 buts. Parce que avec Piatti et avec Taider, même Azira, je pense Azira monte un peu plus, je sens qu'il y a du potentiel à aider avec ça. Et le côté droit, qui que soit le joueur X au côté droit, je pense que Routy va vraiment cartonner, je pense, Milton. Parce qu'athlétiquement, il est vraiment supérieur. C'est du pur sang. Tu le vois. Le gars, il te colle aux fesses sans arrêt. T'as pas le temps de respirer. Il faut que une équipe soit super organisée, comme Kansas City, comme Toronto l'an dernier, il y a 2 ans, tu sais, qui lâche le ballon rapidement pour que tu élimines rapidement ce sort de coureur de fond qui t'emmerde. Tu l'élimines avec ton jeu de passe.
Mais la seule façon qu'on pourrait marquer dans le double digit, c'est si on avait quelqu'un d'autre qu'Azira, quelqu'un qui apporte du danger dans l'axe. Là, des appels, c'est quoi les genres de ballons qu'il obtient au Routy?
Non, lui, il va courir. Lui, il est en mode kamikaze. Quand il lui envoie des ballons, c'est kamikaze. Il est là pour garder le ballon. C'est déjà un truc de plus que personne ne faisait pendant 2 ans.
Oui, il va avoir une tonne de ballons centrés, mais il n'est pas très bon de la tête.
C'est ça, mais il va les garder. Il va les chercher. Le bloc va monter. T'as vu comment Taider monte rapidement vers l'avant? C'est les instructions du coach. Ça se voit qu'ils ont fait ça l'an dernier vers la fin, durant la bonne run de l'an dernier. Dès qu'on l'impacte le ballon, Taider, c'est un des premiers qui monte avec Piatti. Tout le temps. C'est un binôme qui monte tout le temps ensemble. Déjà pour mettre le pressing, si t'as pas le ballon. Et de deux, si t'as le ballon, pour vraiment écarter le jeu. Et ensuite, t'as Sagna qui monte, ça aide. Lovitz qui va monter, ça va aussi aider. Donc je pense que c'est un équilibre. On voit vraiment l'idée que Garde a. Et je suis d'accord, dans tout ça, il manque un autre joueur au milieu de terrain. Ça, je suis d'accord. Je te rejoins avec ça. Est-ce que ce joueur peut être Piatti dans l'axe et on met Chouinard à gauche ou Nouvillo, whoever?
Non.
En expérimentation, je ne sais pas. Je parle comme ça.
Non, l'inverse serait déjà plus réaliste.
Plus réaliste.
Mais
c'est vrai.
Même.
C'est vrai.
Est-ce qu'on fait un gros risque?
Est-ce qu'on essaie ma folie de Twitter hier? On met Okunko dans l'axe de façon temporaire pour voir?
Oh, ben, oui, mais pendant le match, on a vu une petite séquence où c'était justement de cette façon-là.
Ouais.
Oui, je crois qu'il pourrait faire beaucoup plus de dégâts dans l'axe. Ouais. Bref, mais
c'est intéressant. C'est intéressant. Mais dans tous les cas, le match, on l'a vu. Hein. Je sais qu'on n'a pas trop analysé le match avant, là, mais les questions, on le fait à travers la question. Mais l'Impact avait joué en première mi-temps. Quand ils ont fait 2-1 à la mi-temps, l'Impact a défendu pour leur vie. San Jose ont dominé parce qu'ils savent dominer. L'Impact leur a laissé dominer aussi.
Justement, ça correspond à une question à Mathieu Tremblay qui disait pourquoi avoir parqué le boss en fin de match, ça semble être un piège parfait pour perdre les prochains matchs contre des meilleurs clubs que San Jose.
Je suis d'accord.
Mais c'est conséquence. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas ce qu'il faut nécessaire. Quand il y a un gros pressing en face, quand un club vient presser dans le dernier tiers,
ouais,
techniquement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer court et de façon efficace. Donc, dans le doute, beaucoup mieux. Est-ce que tu veux voir par exemple un Piette dribbler devant sa défensive, mm-hmm, ou tu préfères qu'il l'envoie dans les côtés et puis à chaque, mm-hmm, fois, ben ça devient une répétition, là. On que des ballons envoyés loin, désespérés, puis c'est des vagues et des vagues de contre-attaques. T'sais, jusqu'au moment où ça se retrouve dans le bon pied et dans la bonne course.
Exactement. Puis San Jose, c'est pas du U12, là. C'est des pros, c'est des adultes, ils savent jouer au ballon, là. Si DC United était dernier il y a 2 ans, puis premier l'année d'après, voilà quoi, c'est que la menace te permet de faire ça. Donc, tu te dis, San Jose, ils ont le droit d'exister, certes, et je trouve qu'en pré-saison, on a vu l'impact vouloir jouer un bloc bas, vouloir jouer serré, un collectif serré défensivement, puis je pense qu'ils vont continuer de le faire. Parce que si tu remarques, à chaque fois qu'ils essaient de monter avec le ballon en contre, quand San Jose domine avec le ballon, on voit qu'il manque un joueur pour monter le ballon. T'sais, il y avait Taider, ouais, qui a essayé, il y avait Piatti, Urruti quand on le balançait. À droite, c'était pas trop ça, mais il manque quelqu'un dans l'axe. Un autre catalyseur, où il manque peut-être plus un dispositif pour les permettre de sortir le ballon de façon systématique, mais comme un réflexe. Ils le font.
Oui, c'est ça. Parce
ils
que
le font,
une
mais...
Une fois qu'ils sont installés, ça va. Une fois qu'ils sont installés,
ouais,
devant l'équipe, c'est lors des transitions défense-attaque qu'il manque, ouais, quelque chose. Il manque vraiment le gars technique rapide parce qu'on, ouais, peut pas demander. Des fois, on compense avec un Diallo qui fait le travail à la place de Piet.
Ouais.
Mais on peut pas demander aux défenseurs de faire ce travail-là parce que les options sont pas encore disponibles. Mmh. Oui, Piatti descendait beaucoup dans ce match-là.
Il a beaucoup défendu, oui.
Oui, et de l'autre côté, c'était pareil. Donc, dès qu'on gagne le ballon, ces joueurs-là sont déjà au marquage avec leurs propres joueurs. Et avoir le temps de se démarquer, il faut quelqu'un qui est capable de dribbler et de se projeter à l'avant et de maintenir le ballon. C'est pas évident à trouver cette solution-là.
Hilton, ouais. Est-ce que tu veux un secret?
Genre, plus qu'un, oui, mais vas-y avec un.
J'ai un secret, là. OK? L'Impact, ils menaient 2-1, n'est-ce pas?
Ouais.
Est-ce que tu sais combien de changements il a fait, Rémi Garde?
Oh shit.
Il a fait
pas
2.
Pas 3.
Il a fait 2. Est-ce qu'il y a eu des tweets sur ça? Je sais pas. OK. Je voulais juste checker avec toi. OK, parfait.
On a gagné.
Ah, OK. C'est bon. Est-ce qu'il fallait qu'on rentre dans la dalle? Je ne suis pas sûr. OK, bon. Ouf, il faut que j'arrête là. Non, mais juste pour dire, je voulais ajouter ça à ton point parce que c'est marrant. On voit le déroulement du match. L'impact souffre.
Attends, mais on a rentré qui en plus?
Zachary Broguillard.
Ouais.
Et Mathieu Chouanière. Donc, ni Camacho, ni Retala.
Ouais.
C'est pas mal, hein?
Quand le Vilo va revenir? Il va être titulaire?
Non.
Donc, il va prendre la place de qui sur le banc?
Show me the money.
Impossible. C'est le seul milieu axial qu'on a.
Ah, c'est vrai. Je sais pas, Nilton, je suis pas payé pour ça. Là. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu poses cette question? Là? C'est quoi?
Dans le fond, les deux qu'on a rentrés, c'était deux candidats d'être exclus du 18.
Non, c'est vrai. Qui pourrait sortir? Bah, apparemment, ils vont pas sortir Chouanière. Peut-être Broguillard. Ils disent, on arrête à là, il peut jouer à droite. Camacho, hein, peut jouer à droite. Oh. Ouais, c'est intéressant. Mais je trouve ça bien. Je dis, il a juste fait 2 changements, c'est incroyable.
Tard en plus. Il était tard. Il a fait pas le fameux changement 60 minutes programmé à l'avance.
En tout cas, il a 6 minutes sur Football Manager, donc je pense que ça a marché. Mais juste pour dire, voilà, mais en conclusion, oui, il manque un troisième joueur au milieu de terrain. C'est pas pour dire quelque chose de mauvais sur Azira, que je trouve que Azira était intéressant pour une ou deux raisons, mais on va en parler après.
Pour répondre à la question de Daniel Dang, qui justement, sur les propos de Rémi Garde, on n'est pas loin de la Coupe MLS. Est-ce qu'on est à un joueur, le milieu de terrain de cette Coupe MLS-là, selon toi?
Oui, oui, parce que avec le format des séries, c'est pas trop difficile de gagner.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Avec le format des séries, je trouve que ça annule. Ça annule. Atlanta, l'an dernier, si c'est des matchs couperés, dès le début, ils sont éliminés, puis c'est fini. C'est-à-dire, on ne sait pas.
Donc, le vrai trophée qui devrait valoir plus, c'est le Supporter Shield. C'est lui qui est plus compliqué à gagner.
Oui, beaucoup plus difficile, ça c'est clair. Ça c'est clair, tu dois préparer la saison. Les séries, tu dis la bonne vieille formule du Houston Dynamo, tu peux vraiment tout gagner. C'est, je dis pas que c'est facile, mais je trouve que c'est un autre format. Il faut qu'on l'essaye.
On est loin de ça. On est immensément loin de ça.
Exactement. Puis il faut qu'on l'essaye pour voir un an, deux ans, trois ans, ça donne quoi? C'est quoi qui va arriver? Puis je trouve quand c'est des matchs couperés, oui, l'équipe la plus forte devrait gagner, mais c'est un match. Tu sais, moi, je peux pas. Je ne peux plus. Je peux plus. J'ai du mal à répondre pour dire est-ce que ils sont un joueur de gagner la coupe. Je ne sais pas. Ils sont un ou deux joueurs d'être une équipe dominante dans la ligue. Oui, parce qu'ils ont le coach pour ça. Ils ont des éléments pour ça. Bon, c'est Piatti, t'es encore là pour 2-3 ans. J'aurais dit ils vont être une équipe dominante pendant longtemps parce qu'il en manque un ou deux éléments qui peuvent vraiment faire mal. Parce qu'ils ont le staff pour vraiment faire la mise en passe tactique. Mais pour la Coupe MLS, vous me demandez ça en septembre. Parce que, honnêtement, je ne vois pas la valeur ajoutée de répondre à cette question. Pas que je ne veux pas répondre à Daniel. Mais pour dire oui, pourquoi pas. Mais c'est tellement un format nouveau. Et même le format des playoffs en général, c'est quelque chose qui nivelle un peu le jeu, entre guillemets. Un peu, hein, parce que les plus forts en général vont loin. Que ça peut donner des surprises. Donc j'ai du mal vraiment à mouiller. Et même pour les playoffs, nos playoffs, je ne sais pas encore. Donc ça va être intéressant de voir.
Hier, je ne sais pas si tu as vu samedi le match du Colorado dans la neige.
Oui.
Le Snow Classico. Ça fait beaucoup, beaucoup jaser ici au Québec. Hein, on a pratiquement une fixation sur ce match-là sous la neige qu'on veut vivre à tout prix. Teach Tournesol nous demande est-ce que c'est too cool ou too much?
Est-ce qu'on a demandé aux joueurs s'ils veulent jouer dans la neige? C'est ça que je veux savoir.
Moi, je me demande vraiment.
Est-ce que les joueurs veulent jouer dans la neige? Moi, c'est la seule réponse qui m'intéresse. Le reste, là, les gens vont venir pour voir le match. Mais est-ce que les joueurs...
Puis moi, je suis même pas convaincu qu'il y a tant de monde que ça. Il y a beaucoup de monde qui veulent voir ça à la télévision.
Oui. Avec le chocolat chaud, le brandy.
Ouais.
Avec les s'mores.
C'est pas si fun que ça, c'est un match dans la neige. Là. Le match va être moyen. Ça va ressembler justement au match de la Ligue des champions Toronto où ils avaient mis du sable à profusion. Ça va l'air du beach soccer.
Ouais, ouais.
Ça va ressembler à ça. Ça va faire des belles photos. Mais c'est probablement un match. Tu lances comme ça un coup de dé pour savoir qui gagne, puis finalement ça peut te coûter une position importante au classement. Là.
Mais est-ce que Colorado, leur stade est aménagé pour la neige et ils ont le terrain qui chauffe ou est-ce qu'ils ont dit whatever, on s'en fout, on va juste jouer comme ça, puis quoi qu'il arrive, il va neiger jusqu'au mois de juillet.
C'est vraiment un débat ça.
Je sais pas, il faut demander à Kevin Gilmore, est-ce qu'on doit investir?
On s'en fout. Que le gazon soit plus vert 2 semaines à l'avance, c'est vraiment un must.
Vraiment, non.
Non. On peut pas changer la nature. Là. Il fait fret ici, il va faire toujours fret. Même si on a des tuyaux en dessous, il va faire froid.
Non. Je pense que le club a d'autres chats à fouetter que ça. Mais l'idée est intéressante, mais c'est une idée seulement. Voilà.
LP Bardugnotis nous demande l'expérience Cabrera en charnière centrale va durer encore longtemps selon vous?
Honnêtement,
moi je pense qu'on était sévère avec Cabrera pendant
ce match-là. Vous étiez sévère. Moi je suis un fan de Cabrera depuis le début. Là.
Il a mal paru si on veut. sur le but parce qu'on a une fixation un peu sur lui, OK?
Oui, mais
puis on aime faire des blagues là-dessus, le premier.
Le but, c'était bien construit, là. C'est un beau but de San Jose, là.
Sur le but, là, il n'est pas seul à être aspiré. Hein.
Diallo était bloqué, Sagnan a été bloqué.
Sagnan a été aspiré en même temps.
Ouais.
Piet a essayé de compenser. Après, il y a tout un système de compensation. Le jeu est parfait. Ouais. Le reste du match là, de Cabrera, là, il a la chance de le revoir. Là.
Il a marqué Wondolowski comme un champion. Là.
Et il a gagné des duels de la tête là, non-stop. Là. Il a défensivement, il a été meilleur que Diallo.
Oui, oui, oui. Mais et moi, je le dis l'an dernier, Cabrera, c'est pas une super chose. Oui, mais c'est vrai.
Je te jure, là, c'est des fois, on se demande si ceux qui sortent des commentaires ont juste vu le résumé 4 minutes.
J'ai l'impression, parce que honnêtement, regarde, est-ce que Cabrera, c'est le troisième ou quatrième défenseur après que Raitala et Camacho sont arrivés? C'est possible. Est-ce que Garde a dit ce Cabrera, je l'aime pas? C'est possible.
Oui.
Est-ce que Cabrera a le droit d'être dernier dans le classement des défenseurs et ensuite remonter dans le top 2? Oui, il a le droit. Parce que
c'est proche. Là. Ils sont proches l'un de l'autre.
Ben oui, parce que Camacho joue mal, Cabrera joue mieux dans l'entraînement, ça marche. Diallo, Cabrera, ça marche mieux que Camacho, tant mieux. Le staff va choisir. Ils vont le voir, ils voient les entraînements, ils voient la compatibilité. Et puis, c'est pas comme si... On parle pas de, je sais pas moi, de la paire... c'est qui là en défense là? Ramos Varane, là, ça va jamais bouger pendant les prochaines 5 années. Tu sais, genre, on parle quand même des clubs MLS avec respect. Tu sais, à un moment, ça va bouger. Là, Diallo, il se blesse un peu, tu es obligé de mettre Camacho et Cabrera, on voit ce que ça donne. C'est pas comme si il y a une fixation d'avoir tel défenseur. Tu sais, s'il y avait Fanny, j'aurais dit, oui, Fanny, Diallo. Tu sais, c'est parce qu'on a un sort d'ordre et
tout à fait. Mais ça, hein.
Moi, je trouve les gens très durs avec Cabrera. L'an dernier, je trouvais les gens très durs avec Cabrera. C'est oui, il était pas top, mais comment? Top par rapport à quoi? Moi, je dis.
Sofiane.
Il est dans la rotation, il est pas bon, il joue pas. That's it.
Sofiane.
Oui, monsieur.
Comment ça se fait qu'il n'y a aucun club dans MLS à signer Fanny? Explique-moi ça, là. Dis-moi si c'est moi qui est fou.
Moi, je pense qu'il veut rester à Montréal. Moi, je pense qu'il est bien. Qu'il veut rester à Montréal.
Au point de Montréal et rien d'autre?
Je pense. Mais je pense.
Wow.
Je pense que Morel est en train de dire, restez encore un peu, on va essayer de trouver un truc. J'ai l'impression.
Donc,
à moins qu'il essaie de se convertir.
Donc, la présence de Cabrera sur le terrain, c'est un indice. C'est pas anodin. C'est pas le fruit du hasard.
Non, tu dis que c'est Camacho qui va être mis de côté?
Non, mais moi, je fais juste sortir les faits, puis après, je me pose des questions. Comment ça se fait que Fanny, qui a transformé ce club-là en un club qui aspirait aux dernières positions, il y a un record de nombre de défaites en MLS, à un club qui se battait de façon sérieuse et légitime pour une place en série. C'est Fanny qui a transformé ce club-là, un aspect de ce club-là.
Mais
toute la MLS le sait que Fanny est capable de jouer et qu'il a le physique pour le faire.
Mais le truc, c'est que le hic Newton, c'est que l'impact... du moins le quartier général de l'Impact, il pense différemment de beaucoup d'autres clubs MLS. Parce que, c'est quand je parlais de Moneyball, pour un club MLS, payer plus que 500 000, un gars qui a 37 ans, 38 ans peut-être, c'est pas logique pour eux. Ils disent, c'est quoi, tant qu'à faire, j'ai des gars de l'académie, je vais reprendre Bobby Baswell de la retraite. Ils vont trouver des deals pour amener d'autres gars. Ils vont trouver un milieu de terrain vétéran qui vont le transformer en défenseur central. Mais beaucoup de clubs MLS ne vont pas payer beaucoup d'argent.
Toronto ne voudrait pas avoir Fanny derrière.
Oui, mais ils ont choisi Simon, c'est leur problème. Ils ont Mavinga, ils ont déjà des joueurs. Maintenant, s'ils veulent Fanny, tant mieux. Mais je pense que Fanny doit demander un salaire conséquent. Évidemment pas des peanuts. Et je pense que beaucoup de clubs ne vont pas prendre le pari de payer beaucoup d'argent pour un vieux joueur, même s'ils savent qu'il est efficace. Parce que c'est quand même un facteur de risque. C'est tout. Mais je pense que l'Impact était en désespoir l'an dernier, puis Fanny, ça tombait bien, ça marchait, puis tant mieux. C'est tout. Moi, je pense que c'est des circonstances. Puis, tu sais, le salaire de Fanny, l'an dernier, par rapport à un budget MLS, par rapport à son âge, c'était suicidaire. C'était irresponsable de faire ça. Mais ses performances sur le terrain, on va dire, oui, ben, t'avais pas le choix. C'est ta route de secours est devenue ta star. Donc win-win. C'est ton argent, c'est ton argent. Est-ce que Fanny t'a empêché? Est-ce que la salaire de Fanny t'a empêché de recruter un autre joueur au milieu de terrain? Peut-être. Je ne sais pas. Mais au moins le pari a marché. Tiens, on peut, alors que Camacho, dans deux ans, on va se dire, est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Ou qu'on se dira, ah, Camacho, c'était bien. On verra. Mais c'est pas facile, Nilton. C'est pas facile. Mais pour Fanny, j'avoue, c'est un mystère, mais il y a encore
vraiment,
espoir.
C'est vraiment louche tout ça, non? Mais bon.
Ouais.
on va skipper la question de Max Van Hout qui veut savoir quand est-ce que tu fais la grande demande à Safir Tider et on va aller tout de suite à Anthony.
Est-ce qu'il écoute ce podcast, Max Van Hout? C'est quoi, on le tweet pas? Ouais. On le tweet pas. Je veux savoir si Max Van Hout, si tu m'écoutes ce podcast, épisode 3 je pense ou 4 du CCPP 2019.
Je sais qu'il a déjà écouté à plusieurs reprises. Je sais pas s'il écoute à chaque fois.
Par erreur, il s'est trompé. Il cherchait le podcast de Ricardo là. Je sais pas.
De Ricardo.
Ouais, c'est un truc de cuisine, un couscous.
Non.
En tout cas, Max, là, si tu m'écoutes.
On va le savoir.
Si tu m'écoutes, dis-moi coucou. Coucou, Sofiane. Voilà, je veux que tu me dis ça sur Twitter, si tu m'écoutes.
Anthony Bellil nous demande en 70 minutes, au Congo m'a déjà convaincu qu'il était un profil de joueur parfait pour la MLS. Je lui donnerai le prochain départ. Ai-je raison de m'emballer parce que j'ai vu?
Il était pas pur.
Il était pas pur. Mais la mauvaise nouvelle pour Urji, c'est que le gars qui était là avant lui, c'est le recrutement de Rémi Garde.
Ouais.
Et ça, c'est pesant. C'est très, très pesant parce que, un, il connaît Novilo. Hein? Il sait clair et net. Il sait ce que Novilo peut lui donner. Hein? Il veut justement ce que Novilo donne. Au Congo, c'est un profil tellement différent que lui, il est là pour convaincre. Il passe par la phase d'adaptation que tous les autres joueurs ont passé l'année passée. C'est sûr qu'on l'a vu là, sur le terrain, c'est pas une chèvre. Là. Il est technique.
C'est pas une fraude totale.
Ouais. Non, il est athlétique. Il a joué un match dans un système totalement inconnu, dans une ligue totalement inconnue, puis il a pas paru si fou que ça. Son seul défaut, c'est qu'il est pas encore ami avec Nacho.
Exactement.
Donc la fois où il pouvait marquer le but, mais il a poursuivi le ballon.
Exactement. Et il avait une palpasse à faire au rôti où il a pas levé la tête. Mais c'est correct. Mais j'ai l'impression que c'est un ailier qui aime rentrer dans l'axe, là. Donc, d'où ma théorie du 4-4-2 ou du 4-4-1-1. On verra, mais. En allemand, je suis content que l'impact a un joueur qui est pas dégueulasse et qui va être intéressant s'il rentre du banc, s'il va rentrer sur le terrain à partir du banc ou ailleurs. Voilà, c'est bien. C'est pas comme si Vargas qui rentre, on se dit qu'est-ce qu'il fait là ou Antivero. On sait que c'est du temps perdu. Pour le moment, Onglionko.
C'est clairement une coche en haut de Vargas. Là.
Oui, mais ça change pas.
En 70 minutes, c'est clair. J'ai pas besoin d'autres minutes.
Oui, non, c'est quand même un peu tonique. On va donner quelques matchs.
Non, c'est même pas proche.
Ah, ok, c'est bon.
non, mais il y a des fois, oui, des fois il prend un peu de temps. Des fois, 3 touches de balle et c'est réglé, on le sait.
Non, c'est vrai. Il a fait son rôle d'ailier, il va tout droit.
Non, je trouve que c'est un joueur exceptionnel, mais si on compare les deux, à chaque fois, c'est au Congo qu'il joue. À chaque fois.
Oui, clairement, ça c'est clair.
À chaque fois, il y a un peu mal ou Skio encore au Congo.
Oui, sans aucun doute.
Ouais, il est plus capable de jouer avec son pied droit, encore.
Encore. Quoique, j'aimerais bien voir Mathieu Chouinard commencer un match. Puis que soit Okyonko qui rentre. J'ai hâte de voir ça, ce que ça va donner.
Justement, Normand Ouellet nous demande est-ce que Rémi Garde devrait remplacer Azira par Chouinard au prochain match? Ou si on continue de préconiser la défensive à l'étranger et qu'on fait le changement à domicile seulement? Je pense que ça n'a même pas rapport avec domicile étranger. Azira, il est là pour facilement 10 matchs sans problème.
Non, il bouge pas. Puis justement, je voulais parler d'Azira. Azira, honnêtement, quand je le voyais jouer, oui, il devient invisible rapidement parce que c'est son rôle d'être invisible.
Ouais.
Mais honnêtement,
il bouge les trous des autres.
Il bouge les trous de 1. De 2, tu vois le banc, il dit, mon Dieu, s'il n'est pas là, qu'est-ce qui va arriver? Que ce soit Kroliki, que Kroliki soit là ou pas. Je dis, ouf. Azira apporte tellement une certaine assurance avec son expérience. Tu dis, ok. T'sais, Azira, c'est pas waouh, c'est un joueur lambda. Il peut s'appeler Smith,
Souvent, je le dis, il y a des joueurs qui nous permettent de gagner. C'est pas ça. Lui, il nous permet de pas perdre.
Exactement. Mais c'est un rouage important dans un club. C'est un bon joueur de rôle. Il peut être un gars de banc. C'est un gars qui peut être un remplaçant et revenir aider l'équipe. Tu vois, tu te dis, tu te fais pas des idées. Moi, je conseille mon équipe autour d'Azira pour les prochaines 5 ans. C'est ça, aucun club se dit ça à ce moment-là, à ce moment de l'année, en 2019, à son âge-là. mais je trouve qu'il fait tellement partie du décor depuis qu'il est arrivé l'an dernier en surprise qu'on est habitué à le voir. C'est une sorte d'assurance tout risque. Pas nécessairement waouh, pas nécessairement s'il n'est pas pété, donc on se dit oui, c'est bien de le voir. Mais moi, avec Schwanier, là, genre, honnêtement, c'est un ailier, c'est un milieu défensif. Enfin, son poste? Quel poste?
C'est beaucoup de responsabilité de le mettre comme ça dans l'axe parce qu'il va connaître des duels qu'il va perdre.
Oui.
Et après, j'ai peur de sa réaction, tu sais, de sa confiance. Oui. Un ballon perdu sur les côtés, c'est moins grave.
Oui, alors
je veux qu'il forme sa confiance.
Exactement.
Sur les côtés. C'est probablement, sur le côté droit, c'est pas l'idéal parce que centrer un ballon, pour moi, selon moi, Urruti, si lui centrer dessus, ça sert pas à grand chose. Sa meilleure place est à gauche, mais elle est très bien occupée. Donc, l'utilisation qu'on en fait là, un peu comme Kevin Duskan nous demande, c'est le super sub parfait sur les côtés.
Oui, ça va être un bon super sub et je pense qu'il va avoir plus de minutes en tant que titulaire qu'on pense. Honnêtement, je pense pas que ni Okunko ni Nouvillo vont faire peur à Chouanière pour essayer de trouver sa place, même s'il y aura du favoritisme de Remingard pour Nouvillo, ce qui est normal. Je ferais la même chose si j'étais à la place de Remingard. Et voilà, Chouanière, il a du talent. Tout le monde disait qu'il est mieux que son frère, surtout qu'il joue à un poste différent que son frère. Son frère, David, était beaucoup plus...
On les confond.
C'est ça, on les confond, de un. David Chouanière est beaucoup plus un ailier milieu offensif qu'autre chose, alors que Mathieu, c'est une sorte de passe-partout. On verra. J'ai vu des highlights dans les vidéos de l'Académie, je ne veux pas faire semblant que je connais par cœur Mathieu Chouanière. Mais c'est clair, il est très différent que son frère. Il est plus milieu... relayer, mais il aime jouer l'attaque. Honnêtement, je vais voir. Je vais attendre, je vais voir. Ouais, parce que voilà, parce que c'est ça. Je vais pas trop mouler sur Mathieu Chouanière. Je vais juste le voir où est-ce que le staff décide de le mettre. Et c'est là son rôle va être là. Et puis, je pense qu'il y aura beaucoup plus de minutes en tant que titulaire qu'on pense. Moi, je pense qu'il va faire. Il y aura un impact plus grand qu'on pense, à mon humble avis.
Voilà. Il y avait une autre petite question de Benoît Normand qu'on a peut-être un peu couvert déjà. Êtes-vous inquiet de la transition défense-attaque où l'absence des milieux relayeurs a semblé créer un vide?
Ouais.
Mais.
Regarde, le problème est réglé du milieu relayeur. C'était un Piatti à droite. C'est réglé. C'est ouais. un Piatti, un demi-Piatti à droite. T'as aucun problème. Tu te balances à droite, tu balances à gauche, tu sais que t'as deux flèches qui vont tout gérer ça.
C'est déjà ça qu'on fait. On le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà. Les ballons ne passent pas par l'axe. C'est trop dangereux compte tenu de la technique des gars là en place. On passe beaucoup, beaucoup sur les côtés et c'est pas si grave que ça.
Oui, c'est vrai. Mais
l'impact de Montréal ne passe pas son jeu quand il gagne le ballon dans sa surface. Là. Oubliez
non.
ça.
Non, ils ne vont pas le faire. Non,
non. Non le but du jeu de l'impact, c'est pas de prendre deux buts et gagner le ballon le plus haut possible. C'est correct. Il y a plein d'équipes qui jouent comme ça. Là.
Mm-hmm.
C'est jouer au ballon, c'est facile. C'est facile de jouer au ballon contre l'Impact de Montréal. Et on l'a vu, il n'y a pas de pression. Remigard l'avait essayé l'année passée dans le pré-saison. Après, il a changé un peu en début de saison. Il a essayé le pressing à tout prix. Là. Mais c'est pas ça là, qu'on fait. Là. Puis même en face, on a entendu pendant toute la semaine que San Jose jouait du marquage individuel. J'ai pas vu ça, moi. À moins que le marquage individuel, samedi, il était pas...
Mais un truc, c'est quoi ça, marquage individuel?
Celui qui était décrit, c'est que c'était quasiment du football total défensif. Hein? C'est le,
sur coup de pied arrêté?
Dans toutes les phases du jeu. Là, c'est que les joueurs couraient partout puis ils suivaient son homme. Là, c'était...
Personne ne fait ça dans le foot, quasiment.
En fait,
ça s'appelle du pressing là, quand tu le fais?
Ouais, oui. Pressing avec le gars qui a le ballon. Le marquage, c'est vraiment de coller à la culotte le gars, peu importe où ce qui est sur le terrain, sans ballon.
Oui, mais en même temps, tu vas coller ceux qui vont peut-être recevoir le ballon. Si le gars lâche le ballon, ben hop, tu interceptes la balle.
Il n'y a pas ça vraiment dans ce match-là. Pas plus que Montréal. Là. Montréal en faisait dans son territoire, c'est tout.
Oui, en tout cas, vraiment, j'ai pas trouvé cette histoire de marquage individuel. Normalement. Ça se fait plus. Ça se fait peut-être, c'est un cas exceptionnel. Là. Je sais pas, tu veux marquer un Zidane dans un match, tu mets ton milieu défensif sur lui toute la journée. Ça marche plus, je pense. Je sais pas, Nilton. Je sais pas ce que vous regardez quoi à la télé, mais.
Là, on voit que on voit l'influence du nouveau papa est blasé.
Ouais,
le sujet l'intéresse pas. Bah.
Non, non, c'est trois semaines. Je sais pas trop ce qui se passe.
Il est super en retard. Tu dois être en retard dans tes séries Netflix, toi.
Je sais plus ce qui se passe.
Tu vas comprendre. Écoute, j'ai même commencé à écouter ta série coréenne. Je dois être en avance sur toi.
The Kingdom?
Oui.
C'est bien, hein?
Oui, c'est bien.
C'est pas mal, hein? Wow.
Oui, il y a comme... Bon, on vient de changer de sujet. Désolé, tout le monde.
Désolé.
Moi, je trouve ça drôle. le mix, tu sais, tout ce qui est cinéma asiatique, il y a tout le temps une... comment je dirais ça?
Un protocole?
Ouais, mais du suracting, là, tu sais, quand ils sont très, très contents ou très, très pas. Tu sais, il y a un mélange de ça.
Oui, c'est très théâtre.
Ouais, exact.
Ouais, c'est très théâtral. Ouais, c'était bien. J'espère qu'ils vont sortir la saison 2 rapidement parce que c'est trop court.
Non, mais pas trop parce que tu vas être occupé.
Ouais, mais quoi que.
Tu vas l'écouter la nuit?
En 3 semaines, j'ai pu voir. Ah, la nuit, non, c'est tout en réveil, la petite. Ouh là là. Ouh là là. Moi, c'est ouh là là pour
ça,
moi.
Ça aussi, pas à prendre. Bon, ben ouais, conseil de vieux papa.
Ouh là là, surtout pour ma femme, là, mais bon.
Des fois, plus pour ta femme. Des fois, on pense qu'on réveille un bébé. Ah non, on peut faire du bruit. Un bébé, quand ça veut dormir, ça dort.
Exactement.
Tu peux, le go, le giggling, giggling des vaisselles, là. Let's go.
<C'est vrai.
rire> Laisse-toi aller.
mais en parlant de Netflix.
On peut juste partir un couscous péripéri.
garderie, voilà.
Service de garde. Edition.
je viens de dire un gros mot, désolé. Ah ouais, on avait vu The Umbrella Academy, c'était pas mal. C'était bien, une série, là. Super-héros un peu décalé. C'était bien.
Oh God, bon, ça doit être un signe que c'est la fin pour ce...
C'est presque. Attends, il y avait José Manuel Marquez, on l'avait répondu à ces questions. Êtes-vous content du 11 donné par Amy Gard? Ferez-vous des changements?
Oui, mais il n'est pas signé, Fanny.
Ouais. Non, je trouve qu'il a Rémy Garde a fait un bon travail. Honnêtement, moi, Rémy Garde, en tant que je le trouvais un peu tutu l'an dernier au début, en tant que je le trouvais un peu, il jouait un peu le naïf, alors qu'il s'il l'était pas par rapport à, j'ai pas le contrôle de mon recrutement, patati patate, toutes ces conneries là, qu'il avait un sort de schisme à l'intérieur du club là, mais alors qu'il n'avait pas tant que ça.
Non, mais là, c'est difficile de blâmer le recrutement parce que tout est entre ses mains maintenant. Là.
Exactement.
Directeur technique.
Non, il n'y a plus personne.
Il
y a juste lui.
Dire jusqu'au congédiement d'Adam Braz que c'était pas tout entre ses mains, c'était facile. Maintenant, dire ça, ça.
Ça fait un peu encore de.
Ben
oui, là, s'il le fait, je pense qu'il y aura une émeute sur Twitter, mais. Voilà, je trouve que c'est un staff compétent, ils savent vraiment de ce qu'ils font. Et vraiment, un ou deux joueurs, un bon recrutement, je pense qu'ils peuvent vraiment faire mal dans la conférence de l'Est.
Ce qui risque d'arriver, là, c'est les concurrents là, autour. Là. J'ai hâte de voir ce que Toronto va faire.
Ben oui, Toronto va parler. Ça vient de commencer.
Faut pas oublier, là, c'est autour début mai, hein, la fermeture.
Oui.
Ça?
Oui, début mai.
C'est bon, hein?
C'est intéressant. On va voir comment DC va réagir contre Atlanta plus tard aujourd'hui. Et on va voir. Ils vont jouer avec Houston la semaine prochaine. On va voir ce que ça va donner.
C'est quel club mexicain?
Tigresse.
Oh boy.
Ça s'arrête pas.
Ça peut nous aider, ça.
Mais on verra. On verra. C'est Minnesota. Ils sont améliorés. Mais honnêtement, il faut donner le temps à tout ça. C'est le premier match. Je suis content que l'Impact a gagné. C'est bien. CCPP va survivre malgré les bonnes nouvelles. Ne vous inquiétez pas.
Ça fait tellement du bien au moral de l'équipe.
Ben oui.
Ça confirme la fin de la saison dernière que c'était pas du bluff. Hein, ils ont utilisé la même recette et ça vient de payer dans un match extérieur. Ça confirme le camp d'entraînement. Et oui, ils avaient pris un but en 5 matchs, puis bang, en 20 minutes, ils en prennent un, mais ils finissent par. Hein, se restructurer, puis d'être assez chanceux offensivement pour avoir profité des occasions. Et c'est tout le monde reste positif encore une autre semaine. Les médias, les partisans sont en amour avec ce club-là une autre semaine. Ils peuvent même perdre les deux prochains matchs et c'est pas grave parce que dans le classement, ils seront pas derniers. c'est hyper positif, cette victoire-là. C'est un gros bonus.
Non, c'est vrai. Tout à fait d'accord, Nilton. C'est parfait pour l'impact. C'est bon pour le momentum. Puis c'est bien. Puis ça donne moins de pression aux blessés de revenir. Pas obligé de performer comme des fous. Et que le staff a le temps de bien travailler. C'est la bonne idée de passer une semaine à San Francisco, de Tampa Bay, de revenir dans la maison, s'enclimater à la côte ouest. Team building, etc.
On a pu voir 15 fois la même photo d'un joueur devant le pont.
De Gabriel, mon Dieu. J'en avais marre des stories Instagram. J'étais plus tard, là.
La même photo, là.
J'étais surtout jaloux. Pourquoi je ne suis pas là à San Francisco? Ben, je n'ai jamais visité.
On est des jaloux, dans le fond.
Des vrais jaloux haineux. There has been, never was. C'est ça qu'on était.
There never been, never was, has been.
C'est un nouveau concept. Donc, c'est ça.
Bon, c'est-tu l'heure du boire?
C'est l'heure de la fin de ce podcast. CCPP.
N'oubliez pas, là, inonder le fil Twitter de Sofiane de félicitations à madame.
Mais oui, et n'oubliez pas d'inonder aussi le fil Twitter de Maxime Van Hout du 89. De lui dire.
Idée ce qu'il vient de dire de toi.
C'est des conneries. Donc voilà, n'oubliez pas, pour nous supporter, vous nous écoutez, vous partagez le contenu, vous suivez Nilton George et Sofiane Benza sur Twitter, le Cannes Football Club, Twitter, Instagram, Facebook, cannesfootballclub.com. Vous supportez Cannes Football Club sur Patreon pour qu'on puisse vivre de la plateforme et que la plateforme survit et se développe et bourgeonne à travers ces différentes dénominations, le site web, les plateformes podcast, les réseaux sociaux. Vous pouvez aider directement le CCPP, évidemment, avec notre lien Buy Me a Coffee. On va mettre le lien dans la description de l'émission et aussi sur les réseaux sociaux. Donc, supportez-nous, parlez de nous. Si vous connaissez des gens qui voudraient contribuer à un Patreon comme vous, donnez-leur le lien du CANFC. Si vous voulez contribuer directement à nous, donnez aussi le lien de Buy Me a Coffee. Si vous connaissez des gens qui ont des entreprises qui veulent être des sponsors, vous pouvez contacter directement moi, Nilton. Ça me fera plaisir de parler de votre entreprise, de vos services à notre public qui est très très à l'écoute. Je pense que la Force du Malte a dû voir une certaine, un bon vibe de plusieurs de nos fans qui cherchaient leur bière un peu partout, quelques semaines après qu'ils sont venus avec nous. Donc voilà, supportez-nous. Aidez-nous, on va vous aider.
Et comme tu as dit, si jamais vous avez des suggestions, des idées, critiques, commentaires, go. On est ouvert à tout. Parce que souvent, nous, à chaque fois qu'on a beaucoup d'idées, à chaque fois, on se demande si c'est vraiment intéressant pour vous. Donc, si par hasard, vous arrivez avec le même concept en tête, trouver un truc intéressant qu'on pourrait faire, soit dans un CCP ou dans un hors-série, allez-y. Ou que c'est pas une garantie qu'on va tout faire, mais on va au moins tout écouter.
On va écouter et puis on va vous répondre, ça c'est sûr. Et pour finir, CCPP pour le peuple, grâce au peuple, par le peuple. Et sur ce, au revoir tout le monde.
Ciao, bonne semaine.
Ciao, bonne semaine.
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.